EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, l'évangéliste Frank et moi, nous recevons le pasteur Semaias qui nous vient de Paris. Bonjour, pasteur.
Bonjour, pasteur.
Bonjour, pasteur.
Gloire à Dieu. On a passé du bon temps hier en parlant de la timidité et de la discipline et que c'est important pour nous d'être disciplinés pour servir le Seigneur dans le ministère. Et aujourd'hui, on va parler de la différence entre la timidité et l'humilité. Mais juste avant, j'aimerais ça t'inviter, pasteur Semaias, à nous partager un petit peu ton expérience de vie parce que tu as rencontré le Seigneur Jésus. Oui. Et puis, cette rencontre a changé ta vie et après, tu as accepté l'appel au ministère. Donc, juste pour nous aider à te connaître un peu, raconte-nous un peu ton histoire de vie.
Avec plaisir. Alors, moi, je suis né à Paris, pasteur. Je suis né à Paris de parents colombiens. Et à peu près vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à vouloir plaire au monde, à vouloir plaire aux amis, à vouloir me faire respecter, à vouloir me faire un nom dans mon entourage, dans le collège et dans le quartier où j'étais à Paris. Et voilà, le diable utilise souvent ça, ce manque d'identité. Mmh. On cherche à plaire aux autres au lieu de chercher à plaire à Dieu. Mais comme je n'avais pas la connaissance de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu, donc comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Mmh. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs dans la vie. J'ai été dépendant de la drogue pendant plusieurs années, drogue douce tout d'abord, et puis après drogue forte. J'ai été dépendant de l'alcool. Je me suis même noyé en fait dans la drogue et l'alcool pendant quelques années. Et ma mère a expérimenté l'amour du Seigneur Jésus-Christ quand j'avais 15 ans. Une personne lui a parlé de l'amour de Jésus. Mm-hmm. Une femme qui a vécu des choses fortes dans sa vie, mm-hmm, et qui a beaucoup souffert. Mais Jésus est venu pour restaurer le cœur de ma mère et elle a aussi ouvert les portes de son cœur à Jésus et les portes de sa maison. Donc, ma mère, qui était mère célibataire, mère de 5 enfants, eh bien, elle a commencé à faire les réunions de prière dans la maison. Et les années sont passées. Moi, je respectais mes
amis. Juste, je t'interromps là. Ça me fait penser au verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Amen.
Donc, quand ta mère a été sauvée, Jésus est venu habiter dans votre maison.
Mm-hmm. Comme quoi, la femme qui a évangélisé ma mère a brisé cette glace de timidité. Mm. Si elle serait restée dans la timidité, elle n'aurait pas franchi ce pas. Elle aurait dit « Non, Seigneur, je veux être humble, je ne veux pas aller. » C'est deux choses différentes qu'on va développer. Mais en tout cas, elle a pas regardé à sa timidité, elle a regardé à l'âme de ma mère, mmh, qui avait besoin de Jésus. Ouais. Et elle a brisé cette glace et elle a parlé de Jésus. Ma mère s'est fondue en larmes. Mmh. Et aujourd'hui, regardez son fils, pasteur, par la grâce de Dieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a beaucoup prié pour moi. À l'époque, je respectais, mais je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas les choses de Dieu, ça m'intéressait pas. Mmh. J'étais vraiment dans les boîtes de nuit, voilà, tout ce qui va avec. Et quand j'avais 19 ans, un soir, le 6 mars 2010, à 3h du matin plus précisément, je t'invite à regarder mon histoire dans l'émission de Bonjour chez vous. Mm-hmm. Et bien, le Saint-Esprit s'est révélé de façon surnaturelle. Mm-hmm. J'ai vécu le surnaturel, pasteur, dans le 18e arrondissement de Paris. Et ce soir-là a bouleversé mon existence, l'amour de Jésus-Christ, vraiment. Mm-hmm. Et pour parler également de la timidité et l'humilité, c'est vrai que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à assister à l'église, j'ai commencé à voir ce que Jésus faisait et je voulais faire comme Jésus, je voulais être comme Jésus, parler comme Jésus, être comme lui. Et c'est toujours mon désir aujourd'hui de ressembler le plus possible à Jésus. Et je voyais que Jésus, malgré son humilité, je pense que personne n'était plus humble que Jésus, même Moïse, que la Bible dit qu'il était l'homme le plus humble de la terre en son temps. Ouais. Parce qu'après est venu le Fils de Dieu, qui est l'humilité en elle-même, la personne de l'humilité. Mmh. Eh bien, lui-même, ça ne l'a pas empêché d'aller de ville en ville, de dire certaines vérités aux pharisiens. Ça ne l'a pas empêché de virer tout le monde, les voleurs du temple.
Il était audacieux.
Voilà, mmh. ça n'a rien à voir à la timidité avec l'humilité. En étant humble, tu peux être vrai également. Mmh. Ouais, donc, quand j'ai commencé à ressentir ce fardeau pour les âmes, j'ai vu ce verset où Jésus a dit, lorsqu'il vit la foule, Jésus était ému de compassion. Ce verset m'a toujours impacté parce que nous, les chrétiens, même en tant que pasteurs parfois, on a beau voir une foule, ça devient normal. On s'adapte à ce monde, on s'adapte à tout et ça devient normal pour nous. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir une foule et ne pas être ému de compassion. Notre cœur doit battre pour les âmes perdues, pasteurs, hommes de Dieu. Et nous devons toujours, toujours nous efforcer pour avoir ce cœur comme Jésus-Christ. Et Jésus, eh bien, m'a vraiment impacté lorsque j'ai lu ce passage parce que moi-même, je me suis remis en question ma foi. Moi qui étais un homme zélé, je me suis dit, mais Seigneur, je me sens timide. Je me sens timide, j'ai un amour pour les âmes, mais cette timidité me ronge. Quand je monte dans un wagon de métro, j'ai envie d'exploser d'amour et de dire la vérité à tout le monde, mais je sens une timidité comme que diront les gens de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont m'insulter, est-ce que... Mais ouais. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi je me pose toutes ces questions, ce raisonnement humain? Et on sait très bien que le diable attaque les pensées. Et il nous dit, regarde, ils vont pas t'écouter, ils vont t'humilier, ils vont te huer, ils vont te frapper, ils vont te faire ça, ils vont. Mais est-ce que le diable te met la pensée de qu'est-ce que pensera Dieu de toi? Et j'ai commencé à donner plus d'importance à la pensée de Dieu pour ma vie que la pensée du monde vis-à-vis de moi.
Qu'est-ce que je trouve drôle? Parce que c'est vraiment ça, parce que je suis souvent allé évangéliser dans les rues aussi. Et c'est tellement spécial, cette pensée que qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? T'es bizarre, ils vont penser que t'es... Mais en fait, moi, je le dis comme ça, c'est pas nous qui sommes bizarres d'avoir Jésus, c'est eux qui vivent sans lui, en fait, qui est bizarre. C'est l'inverse. Et puis nous, on a cette mentalité-là du monde et on se fait comme écraser avec ça. Mais pourtant, la parole dit dans Philippiens 2, le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Ça, tout ce que ça veut dire, c'est lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas regardé à être vu comme étant Dieu, entre guillemets. Il a agi en tant que serviteur. Et il a continué, verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Mais le verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même. » Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est de se dépouiller du vieil homme, de nous-mêmes, de la timidité, de la crainte qui vient être là quand on veut évangéliser comme que tu le fais. On est appelé à se dépouiller de cette vieille mentalité-là et d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Je vis pour une seule raison, c'est pour d'accomplir ce que j'ai à faire.
Amen.
Ça, c'est tellement puissant.
Et en plus, si nous sommes timides, il faut vraiment se poser les questions. Est-ce que Jésus était timide? Quelle est la première chose qui a impacté les gens de Jésus? Il enseignait avec autorité. Quelqu'un peut avoir de l'autorité sans être orgueilleux, en étant humble. Jésus avait l'humilité parfaite, mais il avait l'autorité. Et si nous disons toujours « Christ vit en moi », mais si Christ vit en moi et Jésus n'était pas timide, pourquoi nous sommes timides? À qui appartient cette caractéristique? Jésus n'est pas caractérisé par sa timidité, mais il est caractérisé par son humilité, par son autorité qui a marqué la différence. Alors, pourquoi nous avons encore cette timidité? Elle n'est pas de Jésus. Enlève ça de ta vie. Enlevons ça de nos vies. L'humilité est, nous devons la garder. Elle est du caractère du Christ. Mais la timidité n'est pas de Dieu.
Et je trouve ça spécial, Frank, que tu as commencé à lire ce texte-là parce que ma Bible était ouverte à ce texte. Et je crois que le Saint-Esprit veut vraiment souligner ce fait-là aujourd'hui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est vraiment, si Dieu nous dit dans sa parole ici, ayez en vous les sentiments, bien c'est parce qu'on doit vraiment rechercher ces sentiments-là et dire, Seigneur, c'est vraiment par ta grâce que je peux arriver à me dépouiller et oublier qui je suis, en fait, pour être qui je suis en toi. Pas juste Joel Spinks sans Christ, mais le Joel Spinks en Christ. Et puis quand on se rappelle de ça vraiment que c'est vraiment pour Christ qu'on vit, on va oublier l'opinion des hommes. On va oublier tout ça. Peut-être vous êtes là à la maison, vous dites, oui, c'est plus facile de le dire que de le vivre, parce que j'avoue, aller évangéliser, des fois, on peut être intimidé. Il peut y avoir des esprits aussi qui viennent contre nous pour nous intimider. Mais moi, je me souviens, pour aller au ciel, il faut avoir la simplicité d'un enfant, n'est-ce pas? Et moi, j'ai commencé à évangéliser quand j'avais 5 ans. Même, non, 4 ans, je pense.
Wow.
Et puis, une des choses, je me souviens, on allait, dans mon église locale, on allait dans la montagne donner des traités. Je me souviens, on avait comme activité cette chose-là. Moi, j'étais petit, à 4 ans, imaginez, avec les petits cheveux blonds, blancs. Et puis, les gens me recevaient très, très bien. Parce qu'à 4 ans, 4-5 ans, les gens reçoivent bien un enfant. Et puis, c'est pas mes parents qui me disaient de faire ça. C'est moi, j'aimais évangéliser. Et je distribuais les petits flyers « Secours d'en haut ». Je sais pas si tu connais ça, Frank. Mais là, j'allais voir les personnes. Jésus t'aime. Mais ma façon aussi, c'était « Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas brûler en enfer. »
Wow! J'avais l'onction de Jean-Baptiste.
Mais j'avais pas la technique peut-être que vous employez aujourd'hui. Mais c'est dans ma simplicité. Moi, j'étais jeune et puis j'étais totalement indifférent de l'opinion des gens. Pour moi, c'est « on va partager Jésus ». Et je pense qu'on doit revenir aussi à cette forme de simplicité aussi. Ne pas se préoccuper avec la vie de tout le monde, mais de se préoccuper avec la vie de Dieu.
Amen. Pasteur, vous savez, une chose qui est très importante, c'est de savoir qu'on a lutté contre le diable. L'apôtre Paul dira que la guerre de ce monde n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre le monde spirituel, les esprits. Et le diable ne veut pas que nous rentrons dans notre destinée. Mmh. Il ne veut pas que nous rentrons dans le plan que Dieu a pour nous. Et il va tout faire. Et une des tactiques, c'est la timidité. Si nous écoutons les gens, nous voyons la société d'aujourd'hui, combien d'hommes, combien de femmes ont raté une opportunité dans la vie par timidité. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas saisi, ils ne se sont pas levés là où Dieu voulait qu'ils se lèvent, là où Dieu voulait qu'ils parlent, qu'ils disent quelque chose qui allait changer la donne de cette situation. Combien d'hommes disent « Non, j'avais l'opportunité avec cette femme, mais j'ai pas eu les mots, j'ai pas pu, j'ai pas saisi avec cet homme. » Dans le contexte vraiment qu'on sent que cette personne vient de Dieu, mais par timidité, on peut rater des opportunités également dans le ministère. Et on voit avec Moïse, par exemple, je vais prendre l'exemple de Moïse. J'ai cité tout à l'heure, comme le dit le livre de Nombres, au chapitre 12, verset 3, il dit « Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. » Et nous voyons après dans le livre, ou plutôt avant, dans le livre d'Exode, au chapitre 4, verset 10, lorsque Dieu, l'Éternel, appelle Moïse. Et il lui dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Là, on commence à voir que si on rentre dans le contexte pasteur, et Moïse avait peut-être vécu de la moquerie dans son enfance parce qu'il bégayait. Et le diable lui rappelait son passé. Absolument. Et le diable veut rappeler le passé pour que, quand on vit le moment présent, on se dit, non, mais il y a des, dans le subconscient, on se moquait de moi quand j'étais à l'école. On se moquait de moi depuis tout petit. Si je le fais, ils vont encore se moquer de moi. Ouais. Et on le vit dans le passé, dans le futur, au lieu de vivre le moment présent. Il a dit, l'Éternel s'est révélé à Moïse comme le grand je suis. Il n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit je serai. Et beaucoup de personnes vivent enfermées dans le passé ou enfermées dans le futur, alors que le futur n'existe pas encore et le passé n'existe plus. Nous devons saisir l'opportunité présente, être violents spirituellement et vraiment donner tout ce que nous avons. Dieu a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Et il dit, Moïse, il commence à raconter sa vie, après chercher des prétextes. Oui, il avait un cœur humble, mais il n'a pas compris en fait que il y a un temps où Dieu te dit cache-toi, prépare-toi, forme-toi. Mm-hmm. Et il y a un temps où Dieu te dit c'est bon, tu es prêt, montre-toi parce que je veux me montrer à travers toi. Et souvent le problème des chrétiens c'est que oui, nous devons chercher toujours l'humilité à n'importe quel moment de notre ministère lorsque nous sommes visibles ou lorsque nous ne sommes pas encore exposés au monde. Mais si Dieu nous dit à un moment de notre vie c'est bon, c'est le moment où tu dois te montrer, tu dois parler. Et toi, tu dis, non, Seigneur, tu penses qu'il faut que tu te caches, tu sors des versets même, tu te justifies. Non, la Bible dit, je dois disparaître pour que Dieu paraisse. Je dois me cacher dans ta présence comme David. Mais il y a un temps où Dieu te dit, et moi, ça m'a toujours marqué, pasteur, parce que là, la Bible dira dans le chapitre 4, verset 10, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Vous voyez, il parle au passé, il commence à vivre dans le passé. Ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y. C'est un ordre. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, ah Seigneur, il continue il croit qu'il est dans son humilité. Envoie quelqu'un d'autre à ma place, tu vois, il veut être humble, sembler humble. Alors là, ça m'a toujours marqué le verset 14, il dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Pourquoi je parle de ça? J'ai vu rarement dans la Bible que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre une personne. Rarement. En général, c'est quand il y a des péchés très graves d'idolâtrie. Et là, on voit ce passage qui dit la colère de l'Éternel. Alors, là, ça nous remet en question, nous, en tant que serviteurs de Dieu, la colère de l'Éternel.
Une des caractéristiques de l'humilité, c'est l'obéissance.
Amen.
Puis, c'est ce que la parole nous dit ici au verset 8. Je retourne dans Philippiens 2, Amen. Verset 8. Mmh. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et beaucoup de gens vont se dire, justement, Dieu a parlé sur ma vie, comme que tu viens de dire. Dieu m'a dit d'aller faire ça, mais non, je suis pas ci, je suis pas ça. Jésus avait pas envie d'aller sur la croix, pas juste à cause de la mort physique. Pour beaucoup de gens qui nous suivent, si vous êtes pas au courant, Jésus a porté le péché du monde entier Amen. Sur la croix. Il a été séparé de Dieu pendant un instant, et pour lui, c'était la pire chose du monde, mais en Gethsémané, il a dit, non, pas ma volonté, mais toi, la tienne. Et c'est de ça que ça parle ici. C'est pourquoi il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il n'avait pas envie, Mais Dieu, il savait que Dieu voulait qu'il se rende jusqu'au bout. Ouais. Et puis, ça revient à dire qu'est-ce que tu dis, c'est que si Dieu te demande de faire quelque chose, la vraie humilité, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire, de s'humilier nous-mêmes et d'obéir à ce que Dieu nous demande.
Tu as relevé quelque chose de très intéressant, c'est l'obéissance. Mm-hmm. Tu as tout dit, en fait, l'obéissance. Mm-hmm. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'obéir, tous les hommes de Dieu, même Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, ouais. a obéi.
Ouais.
Et Moïse, tous les serviteurs de Dieu ont obéi. L'obéissance, c'est la preuve de la foi, la vie de foi. Vivre une vie de foi, c'est l'obéissance. Ouais. Croire en Dieu et croire Dieu lorsqu'il t'appelle à faire quelque chose dans le ministère, nous, en tant que serviteurs, ou même quelqu'un qui veut commencer le ministère ou que Dieu lui demande de faire quelque chose, de parler à quelqu'un. Tu es dans la rue, tu vas au travail, tu vas à l'université, tu es dans le métro, dans un centre commercial et tu sens que le Saint-Esprit de Dieu te dit, parle à cette personne. Même si tu es occupé à faire ta volonté, quelque chose, aller faire les supermarchés ou aller acheter des habits au magasin, mais le Saint-Esprit te dit stop, arrête tout ce que tu fais, je veux sauver cette personne. Et toi, tu dis non, mais Seigneur, je suis humble ou je suis timide. C'est un acte de littéralement de désobéissance. Nous sommes désobéissants. Tu peux être en obéissance avec ton pasteur. Tu peux être en obéissance avec ton papa, ta maman, aux autorités, la police, mais tu peux être en désobéissance au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont en obéissance chez eux, sont en obéissance à l'église, sont en obéissance, mais ils sont en train de désobéir le Saint-Esprit de Dieu. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, de nous lancer dans un projet, de nous lancer dans un ministère, et nous disons non, mais je suis timide, je ne sais pas parler, ou je crois que c'est l'humilité, je veux me cacher. Or Dieu est en train de t'ordonner. Ce n'est pas une proposition. Le diable peut te proposer des choses, mais Dieu t'ordonne. C'est un commandement. Il a dit, allez, c'est pour ça qu'on dit les 10 commandements. C'est pas les 10 propositions, c'est un commandement. Quand Dieu te dit de parler à quelqu'un, c'est un ordre. Il est ton Seigneur. Il est notre Seigneur. Dieu t'ordonne d'évangéliser. Dieu t'ordonne de sauver les âmes. Nous ne vivons plus pour nous. Celui qui choisit de vivre pour Jésus ne vit plus pour lui. Quand on dit souvent, pasteur, donne ta vie. Pourquoi souvent on veut la reprendre? Faire ma volonté. Jésus disait, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé vers vous. Et lorsque nous disons, non, Seigneur, nous sommes en train de dire, je ne peux pas faire ta volonté, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et là, l'Éternel dira, la colère de l'Éternel s'est enflammée parce que Moïse était en train de désobéir.
Une des choses aussi, je pense à une situation que j'ai vécue dans ma vie, avant de commencer à la télévision, le Seigneur m'avait vraiment visité, il me parlait concernant ma destinée. Et je me souviens d'un moment très précis où j'ai dit au Seigneur, oh, Seigneur, je ne suis pas capable, je suis incapable de faire ça. Bref, j'ai donné toutes sortes d'excuses, comme Moïse, pour dire, comme Seigneur, tu te trompes de personne. Là. Et puis, le Seigneur m'a dit, bien, allume la télévision. J'ai allumé la télévision. C'était l'antenne de télévision chrétienne qui était là. Et il y avait un pasteur qui a dit, tu dis en ce moment, tu es incapable. Tu dis au Seigneur, voici tout ce que je venais de dire, finalement. Et puis, mais il disait, mais Dieu te dit, c'est son onction qui te qualifie. Et puis, j'ai compris cette journée-là. OK, c'est vrai, en moi-même, je suis tout ce que Moïse dit, en fait. On peut vraiment dire toutes les fautes qu'on a, nos manquements, nos faiblesses. Mais Dieu, dans tout ça, là, en fait, l'homme le plus fort sur la planète est faible comparativement à notre Dieu. Ouais. Donc, nous sommes tous des candidats comme Moïse. Nous sommes tous incapables. Mais si on réalise, je suis incapable, mais quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Et puis, Dieu nous dit, bien, c'est moi qui te qualifie. La seule chose que Dieu a besoin, c'est des vases qui vont se laisser remplir.
C'est que
Seigneur, je suis juste un vase, je suis juste un instrument de tes mains, mais si tu me prends, bien, tu peux faire de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Mais c'est pour ça qu'on doit comprendre vraiment, on est tous comme ça, on est tous comme Moïse. Celui qui dit, ah oui, Seigneur, moi, je suis capable, bien là, on parle le contraire de l'humilité. Ouais, on parle d'une personne qui est sûre de lui-même, mais vaut mieux être pas sûr, être insécure, mais réaliser que nous devons être dépendants
Amen.
De Dieu.
Et je pense, quand tu parles de cela, pasteur, je pense à David, par exemple. Lorsque nous avons des Goliaths à affronter, comme David n'était pas sûr de lui. David était sûr de l'Éternel.
C'est ça.
Il savait que s'il y allait avec son assurance humaine, et Goliath allait le dégommer. Il savait très bien, mais il n'est pas allé avec une assurance humaine. Il a mis son assurance dans l'Éternel. Il a obéi. Et c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui peuvent risquer de ne pas rentrer dans le plan de Dieu, dans leur destinée, par désobéissance. Soi-disant, le diable te dit, non, c'est la timidité. Non, c'est de la désobéissance. Lance-toi. Moi, ça m'a changé ma vie. Je vous le dis personnellement, ça fait que je suis là en train de vous parler aujourd'hui parce que je suis obéir et mourir à ma timidité et répondre à ce que Dieu me demande, m'ordonne de faire.
Donc, ce que tu as vécu et ce que les gens à la maison peuvent comprendre, c'est que même s'ils se sont plantés, même s'ils n'ont pas obéi à Dieu immédiatement, il y a encore une seconde chance pour eux. Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre
en fait? Bien, alors déjà, c'est très important ce que tu viens de dire parce que Dieu est un Dieu d'opportunité. Et souvent, le diable veut te faire croire que c'est un Dieu d'une seule opportunité. Tu as échoué une seule fois, c'est bon, c'est fini, plus de ministère, plus rien, tu es fichu, c'est bon, allez, tu vois. Ouais. Et limite, le diable veut te dire, suicide-toi parce que ta vie est gâchée. Mais justement, Judas croyait que tout était fini. Mais Pierre a su saisir l'opportunité du pardon et de l'autre opportunité que Dieu lui a donnée. Mais Judas, sa culpabilité l'a mené à un suicide. Trop de chrétiens se suicident spirituellement, pasteur. Quittent les églises parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fauté devant Dieu. Et ils croient que Dieu ne va pas les pardonner. Mais qu'est-ce qui nous ramène cette pensée? C'est que comme le diable, il a une seule opportunité dans le ciel, parce que lui voyait Dieu. Mais nous, nous avons péché, mais nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Dieu ne nous a pas traités pareil. Le diable a chuté, mais Dieu n'est pas parti chercher le diable. Alors que quand il y a la chute de l'homme, Dieu est parti chercher l'homme. Nous avons une grâce particulière. Et il est important de ne pas tomber dans la pensée du diable. La pensée du diable, c'est non, c'est bon, j'ai été déchu, c'est bon, c'est fini pour moi. Mais la pensée de Dieu, de Jésus-Christ, c'est non, ce n'est pas fini, mon fils. Je suis ton père. Je t'aime. Relève-toi, ma fille. Relève-toi, mon garçon. Ouais. Continue à te battre. Et le feu, hier, nous parlions, pasteur, du feu. Le feu de la timidité ne doit pas être plus grand que le feu de l'obéissance. Le feu de l'obéissance doit embraser le feu de la timidité, le feu de la peur. Je peux t'assurer que quand je vais prêcher dans un wagon de métro à Paris, devant des musulmans, devant des athées, devant toutes sortes de personnes ou dans un quartier défavorisé, je sens l'atmosphère, je sens que c'est dangereux. J'ai même été, et je te dis pour la gloire de Dieu, dans des favelas au Brésil, dans Medellin, la ville de Pablo Escobar, où j'ai été à Medellin dans cette ville-là. J'étais au Mexique, dans des quartiers où il y a un meurtre par jour, un petit quartier, un meurtre par jour. J'ai senti, mais je sais que si Dieu m'a ordonné, c'est qu'il va être avec moi. Et je suis allé par obéissance et Dieu était là. Et oui, je suis allé avec parfois la timidité, je suis allé parfois avec la peur, parce que quelqu'un qui est courageux, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, ce n'est pas quelqu'un qui ne sent pas la timidité, mais c'est quelqu'un qui, malgré sa timidité, son sentiment de peur, vainc cela, son feu d'amour, de vaincre, de courage. Et sa vaillance est plus grande que sa timidité et sa peur. Donc un conquérant doit d'abord vaincre son propre ego, se vaincre soi-même avant d'aller conquérir et vaincre quelque chose ou quelqu'un.
Ouais, moi, qu'est-ce que j'ai vécu souvent, mettons avant de prêcher, mettons je recule de plusieurs années. Des fois, il y a un stress qui est là. Des fois, il y a différents combats qui sont là. Des fois, c'est des réunions d'évangélisation. Tu te dis, mais il y a des gens que je connais pas. Qu'est-ce qu'ils vont? Bon, et là, tu es sur le point de prêcher. Et là, j'aimerais parler un petit peu de l'onction, l'équipement surnaturel du Saint-Esprit. Ouais. Quand tu commences à aller et obéir, je sais pas, tu l'as sûrement déjà vécu dans le wagon de métro ou de quoi que ce soit, quand tu commences à parler, soudainement, t'es comme t'es revêtu d'une audace qui était pas là il y a cinq minutes. Et là, tu ouvres la bouche et les choses commencent, c'est comme dans l'esprit, tu sens que ça dégage. Il y a la puissance de Dieu qui est derrière les paroles. Et ça, c'est fort, c'est l'onction, c'est l'équipement surnaturel du Saint-Esprit. Et j'aimerais ça que tu puisses peut-être communiquer aux gens ce que tu as vécu à ce niveau-là. Moi, je l'ai vécu plein de fois. C'est comme il n'y a rien qui t'arrête. Quand l'onction est là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Tu fonces.
Dieu ne choisit pas des personnes capacitées. On l'a souvent dit, on le dit souvent, Dieu capacite ceux qu'il choisit. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il te demande simplement de faire ça. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. C'est comme une grande entreprise. Il te dit simplement de faire. Le reste, c'est lui. Les hôtels où tu vas aller dans les déplacements, la voiture, l'uniforme. Il s'occupe de tout. Toi, simplement, sois à l'heure, fais ton boulot et le patron s'occupe du reste. Nous travaillons pour le patron des patrons. Amen. Il s'occupe de tout. Ouais. Pourquoi tu te préoccupes? Pourquoi on se préoccupe pour cela? Vas-y simplement. Il faut. Moi, je me suis dit toujours, je préfère m'afficher en faisant la volonté de Dieu plutôt que de ne pas m'afficher et d'aller en enfer ou de rater mon destin ou de passer à côté de ce que Dieu me demande. Donc, même dans tout, pour passer dans cette émission, oui, tout le monde sent des choses pour aller évangéliser. Lorsque nous nous levons dans une église, pasteur, pour enseigner les brebis que Dieu nous a confiées, nous sentons une responsabilité. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai pour préparer un message, mes premiers messages. On l'a tous fait. Qu'est-ce que je vais dire avant de... Mais toujours la parole que Dieu a dit à Jérémie. J'ai cette parole qui me vient à l'instant, pasteur. Lorsque Dieu appela le prophète Jérémie, allons ensemble à la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Jérémie, il a dit à Jérémie quelque chose de très fort. Et lorsque Jérémie a pris conscience de cette parole, le prophète Jérémie n'a plus jamais été pareil. Il a même été un des prophètes majeurs de la Bible. Et nous remarquons dans le chapitre 1, Verset 11, il dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. » Il dit « Que vois-tu, Jérémie ?» Et plus loin, il dira que... Alors là, tout de suite, sous le feu de l'action, je ne trouve pas le verset exact, mais il lui dit « Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler, toi, devant eux. Mmh. » Alors si nous n'y allons pas, le Seigneur nous fera trembler. Ça, ouais. Mais il faut que c'est nous qui faisons trembler les ténèbres. Mmh. Allons faire trembler le diable. Et non pas que nous tremblons devant le diable, l'obéissance. Vas-y, que tu sois timide ou tu l'as peur, vas-y. L'amour que tu as, ah oui, sois prêt à tout donner pour Jésus.
En fait, c'est le verset 17 et au verset 18, il dit « Voici, je t'ai établi en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre tous les pays. » Bref, sauf que c'est Dieu, encore
verset 17,
une fois,
qui... Ne tremblez pas en leur présence, oui.
C'est Dieu qui nous qualifie.
Ouais. Amen, pasteur, ouais. C'est exactement ça.
Étienne, acte chapitre 7, verset 51, la parole dit... Étienne était devant des hommes religieux, contextualiser ce qu'on va lire. Il leur dit « Oh, mon courède incirconcis de cœur et d'oreille, vous êtes opposés toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ils réprimandent sévèrement des hommes qui peuvent le mettre, à la mort, des gens qui sont en pouvoir. Mmh. Et là, tu continues, puis tu vois au verset 55, il les réprimande, il leur dit vraiment la vérité. Au verset 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit,
Amen.
Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Amen. Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts. » Ils poussèrent après ça, au verset 57, « De grands cris, et se bouchant les oreilles, ils lui précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds du jeune homme nommé Saul. » Et tu te dis, mais il était animé d'un esprit pour être face à ces gens-là. C'est surnaturel.
Et c'est ça que l'obéissance.
Dieu veut. Et ça, c'est pas réservé à eux dans les actes. C'est pour nous aujourd'hui.
Amen.
Dieu veut faire ça au travers de nous.
Gloire à Dieu. Et puis, en terminant cette émission, j'aimerais juste vous dire, tout ce qu'on a dit, ben moi, je suis d'accord que Dieu peut prendre quelqu'un qui est dans la crainte, dans la timidité. Et Dieu, le Saint-Esprit, peut descendre sur cette personne et le transformer.
Ouais.
Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu veut vous transformer. Si vous êtes timide, bien aujourd'hui, sachez que Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse.
Amen.
De force. Vous êtes audacieux au nom de Jésus. Et vous savez, mon histoire que j'ai racontée dans une autre émission où j'avais peur de parler devant une classe, par exemple. Bien, un jour, je me suis retrouvé dans une classe, j'étais au collège, et puis j'ai prêché l'Évangile. C'était une présentation orale que je devais faire. On choisissait le thème qu'on voulait. Et moi, j'ai choisi l'Évangile de Jésus-Christ et j'ai prêché toute la classe. Et le professeur, après, est venu me voir. Il a dit, mais toi, t'as pas froid aux yeux, hein? T'as pas peur. Mais c'était pour moi comme vraiment, le diable n'aura pas la victoire sur moi. Je vais annoncer l'Évangile. Et vous pouvez annoncer l'Évangile là où vous êtes. Vous êtes capable vraiment d'être la lumière du monde parce que Jésus l'a dit. En fait, vous êtes la lumière du monde. Donc, si vous êtes la lumière du monde, brillez au nom de Jésus. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer, de glorifier votre Dieu. Et nous sommes dans la saison de récolte, je le crois. Dieu veut sauver une grande multitude. Je crois que nous vivons dans des temps de réveil où le Saint-Esprit est relâché, envoyé sur toute la francophonie. Et nous devons briller pour lui et vraiment voir cette récolte d'âmes entrer dans le royaume de Dieu. Donc, merci, pasteur, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain. Merci, Frank, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.